journal, Sébastien Berriot.
Bonsoir à tous.
Dans ce journal, nous irons d'abord en Corse où le port du Burkini a provoqué 2 jours de tension dans la petite commune de Cisco, au nord de Bastia. Le maire a pris un arrêté pour interdire cette tenue utilisée par certaines femmes musulmanes. À suivre le reportage en Corse de Maxime Beckmer. Et puis ces événements de Cisco ont entraîné une certaine surenchère dans les réactions politiques, notamment à droite chez certains républicains. Analyse de Christine Moncla. En Zambie, l'opposition dénonce des résultats truqués après la réélection du président Edgar Lungu. Il a remporté l'élection présidentielle avec une très courte avance sur son opposant. Correspondance à Lusaka de Sébastien Hervieux. Et puis la Turquie qui fixe un ultimatum à l'Union européenne. L'accord sur les migrants sera caduc en octobre si l'Union ne respecte pas ses promesses en supprimant les visas pour les ressortissants turcs. Nous verrons comment on réagit à Bruxelles avec Lakshmi Lotha. Après Cannes et Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes, le maire de la petite commune de Cisco, au nord de Bastia, a donc pris lui aussi ce matin un arrêté pour interdire le port du Burkini sur les plages de la commune. Décision prise après un week-end de tension dans cette municipalité du Cap Corse. Un différend à propos de femmes se baignant en Burkini s'est terminé par une bagarre entre jeunes Corses et familles d'origine maghrébine. Plusieurs personnes ont été auditionnées par les gendarmes, mais pour le moment, pas d'interpellation ni de garde à vue. À Cisco, les habitants tentent de reprendre leurs habitudes, mais l'ambiance reste pesante, comme en témoigne ce reportage de Maxime Beckmer de France Bleu Corse, fréquente Samora.
Au bar-restaurant Le Galion, où une bonne partie des Cisquais se réunit chaque jour, les événements de samedi soir sont encore très présents dans les discussions. Yannick, le patron de l'établissement, résume la situation.
C'est assez tendu, je vous dis la vérité, c'est vraiment tendu.
Au comptoir, il y a Abdel, un habitant de Cisco d'origine maghrébine. Il tient à donner son interprétation de ces affrontements intercommunautaires.
Le point de départ d'un tel acte, ce n'est pas dû à la burqa ou pas à la burqa. Le point de départ, c'est que ce sont des adultes qui se sont pris à des gamins du village. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec l'islamisme ou le burqa ou peu importe.
L'arrêté municipal interdisant le port de la burqa et du burkini, il s'agit selon lui d'une bonne décision.
Je pense que c'est une bonne chose. Moi, mes parents sont arrivés ici il y a 40 ans. Ce sont des pratiquants. Ils pratiquent chez eux à la maison. Il n'y a aucun signe extérieur de religion ou quoi que ce soit et chacun fait ce qu'il veut mais chez soi.
Ici, des dizaines de caméras et de micros ont investi le village en 24 heures. Un déferlement médiatique qui aujourd'hui perturbe la population. C'est le cas de Valérie.
Ça fait bizarre. Dans le monde entier, on connaît c'est pas si, parce que maintenant tout le monde le connaît et ça fait un peu bizarre, c'est tout.
Aujourd'hui, certains parlent même de crainte et de peur de représailles dans ce climat tendu. C'est ce que souligne Jean-Paul.
On est à l'abri de rien, ça arrive partout apparemment. Et c'est sûr que par rapport à ça, oui, il y a une crainte, oui, une appréhension, on va dire.
Une quiétude qui n'est donc que partiellement retrouvée dans ce havre de paix du Cap Corse.
Un reportage signé Maxime Beckmer de France Bleu Corse, fréquente ça, Mora. Cette polémique estivale autour du Burkini fait réagir la classe politique. Laurence Rossignol, la ministre des droits des femmes, a estimé tout à l'heure que le burkini était profondément archaïque. Mais la ministre a aussi appelé à combattre le burkini sans arrière-pensée, dénonçant, je la cite, la droite dure qui veut faire de l'islam le sujet des mois à venir. Et c'est vrai qu'après les événements de Cisco, on a assisté à une certaine surenchère, notamment au sein de la droite locale en Corse. Le point avec Christine Moncla.
Outre tous les dérapages prévisibles sur les sites proches de l'extrême droite, c'est du parti Les Républicains qui est venue la réaction politique la plus outrancière. Parlant de racailles, la Fédération de Haute-Corse écrit noir sur blanc que les personnes agressées sur la plage de Cisco ont dû faire face, je cite, à des barbares islamistes armés jusqu'aux dents. L'état-major du parti de Nicolas Sarkozy se désolidarise mollement, c'est la responsabilité et l'expression seule de la Fédération Corse, nous indique un porte-parole. Au niveau national, la position des Républicains et de dénoncer le communautarisme et de faire appliquer la loi. Même le Front National local, dont des membres ont participé à la manifestation bastiaise d'hier, ne va pas aussi loin publiquement. Il dénonce, lui aussi, un danger communautariste croissant, mais surtout l'ambiguïté d'une majorité d'élus. Sont visés au premier chef les néo-nationalistes, dont le chef de file est Gilles Simeoni, le président de la région. Eux multiplient les appels au calme et au vivre ensemble. Mais pourtant, comme après les incidents de Noël d'ailleurs, ils ne condamnent pas fermement les propos parfois racistes tenues hier par les manifestants de Bastia. Quant au gouvernement, on peut parler d'embarras perceptible, difficile d'apporter son soutien à tel ou tel parti. En effet, il s'en tient au communiqué de Bernard Cazeneuve samedi soir, appelant chacun à la responsabilité. Le ministre de l'Intérieur n'a pas prévu à ce stade, nous dit son cabinet, de se déplacer en Corse.
L'Assomption, célébrée aujourd'hui en France avec de nombreux rassemblements à Lourdes, notamment les fidèles étaient plus de 22 000 sous très haute sécurité, défilés également à Paris au départ de la cathédrale Notre-Dame avec des prières pour la paix et pour la France. Soyons en communion avec le père Jacques Hamel, a notamment déclaré l'archiprêtre de Notre-Dame. En Zambie, pays d'Afrique australe, l'opposition crie ce soir à la fraude après la publication des résultats de l'élection présidentielle. C'est le chef d'État sortant, Edgar Lungu, qui remporte le scrutin avec une très courte avance sur son opposant, Hakainde Hichilema, qui en était à sa cinquième candidature. L'opposition annonce son intention de contester les résultats en justice. À Lusaka, correspondance de Sébastien Hervieux.
Explosion de joie chez les uns, visage fermé chez les autres, ce fut à nouveau une grosse déception aujourd'hui pour les partisans du chef de l'opposition zambien, Hakainde Hichilema. C'était la cinquième fois qu'il se présentait à une présidentielle. Alors 18 mois après un premier affrontement lors d'une élection présidentielle intérimaire suite au décès du président Michael Sata, la défaite est une fois de plus rageante pour l'opposant. Il ne lui a manqué que quelques milliers de voix pour pousser le président sortant, Edgar Lungu, à un second tour inédit. Celui-ci, réélu pour un mandat de 5 ans, obtient 50,35% des voix contre 47,63% pour son rival. Alors l'opposant ne compte pas en rester là, il l'a dit tout à l'heure. Il va déposer un recours devant la Cour constitutionnelle pour annuler le scrutin. Pour lui, c'est une évidence, il a été victime d'une fraude organisée par le parti au pouvoir, le Front Patriotique, avec la complicité de la commission électorale. Une accusation fermement démentie par celle-ci. La question de dorénavant, c'est de savoir si M. Hichilema aura suffisamment de preuves pour convaincre les sages zambiens. Dans tous les cas, le chef de l'opposition avait déjà dû faire campagne dans un contexte d'intimidation et de violence inhabituelle en Zambie. Trois de ses partisans ont été tués, la police a entravé à plusieurs reprises la tenue de ses rassemblements, les médias pro-gouvernementaux ont mené une couverture à charge et les autorités ont même fermé le plus grand journal indépendant.
Au Yémen, les frappes de la coalition menée par l'Arabie continuent de faire des victimes après la mort de 10 enfants ce week-end dans une école coranique. Aujourd'hui, c'est un hôpital où travaille Médecins sans frontières qui a été touché dans le nord du pays, dans un secteur contrôlé par la rébellion Houthi. 6 personnes auraient été tuées et une vingtaine d'autres blessées lors de ces nouvelles frappes. Russie et États-Unis proches d'un accord de coopération militaire à Alep, en Syrie. C'est le ministre russe de la Défense qui l'affirme ce soir. Il évoque des négociations actives pour trouver des cibles communes, donc à Alep. En Turquie, 5 policiers et 2 civils tués ce matin dans un attentat à la voiture piégée dans le sud-est du pays. Attaque attribuée au PKK. C'est un poste de contrôle de police qui était visé sur une autoroute. La Turquie qui demande une nouvelle fois à l'Union européenne de respecter ses promesses sur la question des visas. Et cette fois, le ton se veut plus insistant. Dans un entretien accordé au quotidien allemand Bild, le ministre turc des Affaires étrangères adresse un ultimatum aux Européens. Si d'ici le mois d'octobre, l'Union n'autorise pas les ressortissants turcs à voyager en Europe sans visa, eh bien Ankara menace de ne plus respecter l'accord sur les migrants. Un ultimatum qui a fait réagir à Bruxelles. L'Union a tenu à rappeler les conditions de cette libéralisation des visas. À Bruxelles, Lakshmi Lota.
La Turquie doit remplir 72 critères obligatoires si elle veut obtenir l'exemption de visa pour ses citoyens. Or, toutes ces conditions ne sont pas réunies. Parmi elles, modifier la loi turque sur la lutte antiterroriste. Pour l'Union européenne, cette loi porte atteinte à la liberté d'expression et autorise les arrestations arbitraires. Ankara refuse d'amender ces dispositions. Pourquoi la lutte contre le terrorisme devrait-elle être un luxe pour la Turquie, a demandé le président turc. Après l'accord du 18 mars dernier sur les migrants, les différentes parties avaient convenu d'aboutir à une possible libéralisation des visas d'ici fin juin. La date est largement dépassée. Le gouvernement turc a donné son nouvel ultimatum, octobre, faute de quoi la Turquie n'acceptera plus le renvoi de réfugiés vers son territoire. Mais cette pression n'entame pas la confiance de l'exécutif européen. « Nous sommes obligés de travailler ensemble », dit un porte-parole de la Commission. « Cet accord est dans l'intérêt des deux parties », ajoute-t-il. « Nous ne travaillons pas sur un plan B », affirme enfin le représentant de l'instance.
Le temps pour la journée de demain, ce sera estival, soleil et chaleur avec, attention, une ambiance qui deviendra plus lourde l'après-midi sur la moitié sud avec des orages notamment sur les Pyrénées, le Massif central, les Cévennes et les Alpes du Sud. Température demain après-midi, 24 degrés à Cherbourg, 31 pour Brest et Paris, 35 à Toulouse et 38 à Bordeaux. 22h10 sur France Culture, je vous souhaite de passer une excellente nuit.